Bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Lecture Nocturne. Je m'appelle Benjamin et ce soir, j'aimerais vous présenter deux œuvres de l'auteur Chloé Delhaume, récompensée en 2020 par le prix Médicis. Avant de commencer, je vous rappelle que Lecture Nocturne s'écoute de préférence dans un lit bien confortable, avant de s'endormir, afin d'embarquer dans une nuit remplie de péripéties, de figures de style et de points de suspension. Dans la même ligne que mon tout premier épisode, je souhaite vous présenter un roman auréolé d'un prix littéraire, le prix Médicis. Ce dernier fait partie de ce que l'on appelle en France les cinq grands prix, c'est-à-dire le Goncourt, le Femina, le Médicis, le Renaudot et l'Interallié. Ces récompenses littéraires sont les plus réputées dans notre bel hexagone et sont souvent la cause d'un bond dans les ventes dès leur annonce. C'est ainsi qu'ils sont en quelque sorte le Graal de chaque auteur. Le prix Médicis, puisque c'est de lui dont on s'intéresse aujourd'hui, s'intéresse aux auteurs relativement inconnus du grand public et souhaite donc les propulser sur la scène médiatique littéraire et, en quelque sorte, lancer leur carrière dans ce monde ardu et terriblement exigeant. Si Chloé Delhaume n'est pas une nouvelle du milieu, ses œuvres n'avaient pas, jusqu'alors, suscité la même attention que son dernier roman, Le cœur synthétique, qui lui a valu le prix Médicis en fin d'année dernière. Habitué aux exercices de style et aux ouvrages d'essai, c'est un roman un peu plus classique, attaché aux normes, que Chloé Delhaume nous propose avec Le cœur synthétique. Portant un message féministe puissant et une puissante interrogation sur la place d'une femme, et donc de la femme en général, dans notre société, j'ai trouvé intéressant de parler de son essai paru un peu plus tôt, Mes bien chères sœurs. Mais avant de parler de ces deux œuvres, un extrait de Le cœur synthétique de Chloé Delhaume aux éditions du Seuil. Une chambre à soi. Le cœur d'Adélaïde cogne douloureusement, comme s'il avait été frotté avec du papier de verre. Pour autant, elle sourit en défaisant ses cartons. Elle a son lieu à elle, la voilà autonome, ici sera son royaume, ce deux pièces est parfait bien qu'il soit minuscule. Ce qui écorche son cœur, c'est l'effet du divorce, même si Adélaïde en est à l'origine. C'est dans le tribunal que ça a commencé. Depuis, ses ventricules n'arrêtent pas de peler. Adélaïde le sent et pense que son cœur mue, dernier lambeau de l'amour qu'elle avait pour Elias. Dessous, une peau toute neuve, en attente d'autres émois. L'enveloppe se trouve à vif d'être mordue par le vide. Personne ne pense à elle et elle ne pense à personne, depuis l'âge de 15 ans, c'est la toute première fois. Jusqu'ici, elle quittait un homme pour d'autres bras, Adélaïde toujours a été amoureuse. Ces 7 dernières années, d'Elias. Jusqu'à ce que la routine lui use l'âme et les nerfs. Adélaïde déballe ses affaires et s'étonne que toute sa vie tienne dans si peu d'espace. Elle a 46 ans et ne possède rien, mis à part plein d'habits et 7 bibliothèques. Des billes d'IKEA, qu'elle orne de guirlandes, de papillons sous cadre, de babioles mexicaines, de lampions japonais. Une paire de stilettos trône entre 2 pléiades. 2 passions dans la vie, les livres et les chaussures. Dans son ancien appartement, Adélaïde avait une chambre d'amis. Qui lui tenait lieu de dressing, un double salon, un coin lecture. Tout ça, elle le devait à Elias, qui en était propriétaire. Avec son seul salaire, Adélaïde peut louer 35 mètres carrés dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a pris un lit de 1,20 m et le moins de meubles possible. Une table, 4 chaises, pas de canapé. Partout, les portes en plois, les malles débordent, le peu de placard implose. Les livres recouvrent chaque pan de mur, grignotant la surface au sol, s'imposant ci et là par piles, en table d'appoint ou en colonne. Bottes, bottines et baskets, pyramides dans l'entrée, dans les angles de la chambre s'amoncellent les sandales, ballerines et escarpins. Une impression de capharnaüm que rien ne pourra endiguer. Image d'une boutique de seconde main, sensation d'habiter un rayon d'Emmaüs. Adélaïde savait à quoi elle s'exposait. Quitter Elias, c'était renoncer au confort. Voir son niveau de vie chuter considérablement. Elle se veut seule et libre, désormais affranchie du carcan conjugal. Il est 20h50 et elle est bien contente d'avoir sauté le repas. Le corps d'Adélaïde s'étend voluptueusement sur le lit de 1,20 m recouvert de coussins. Solitude inédite, poitrine gonflée d'ivresse. Ouverture du champ des possibles, l'avenir se fait accueillant et enfin mystérieux. Elle s'ennuyait avec Elias, chaque jour éternel recommencement. Il lui semble aujourd'hui, à ce moment précis, qu'elle a repris le contrôle sur sa vie, se permettant de repartir, pour de vrai, à zéro. Adélaïde jouit du silence, palpe cet instant en suspension. Elle a un peu le vertige, beaucoup d'excitation. L'inconnu lui est accessible, la voilà prête à s'y lancer. Le mois d'août grimpe par la fenêtre, le silence est un peu moite, enveloppant, doucereux. Adélaïde observe ce qui sera le décor de ces mois, ou peut-être même années à venir. L'étroitesse de sa chambre la saisit au gosier. Elle se dit, par pitié, des mois, pas des années. Aussitôt dans son crâne surgissent des scénarios permettant de la reloger. Un homme, propriétaire d'un grand appartement, un homme, juste locataire, avec un bon garant, le numéro gagnant, à l'euro million. Adélaïde se dit, pour se donner du courage, ce n'est que transitoire, et au moins, j'ai la paix. Le téléphone ne sonne pas, et les réseaux sociaux sont ce soir désertés. Adélaïde déjà a besoin de parler. Elle a rarement habité seule, jamais plus de 6 mois, et elle était plus jeune, ça remonte à si loin. La dernière fois, avant Elias, elle vivait mal la solitude, tellement mal, elle touchait le fond de sa piscine, avant Elias, la dépression. Se retrouver seule avec elle-même ne constitue pas le problème. Le problème, c'est l'absence d'amour. Adélaïde se dit, je vais rencontrer quelqu'un. Elle ajoute à haute voix, quelqu'un, c'est obligé. Dans son parcours, ce serait logique, puisqu'elle a toujours enchaîné. Elle se demande qui, dans cette ville, lui sera bientôt destinée. Elle hésite à se tirer les cartes, préfère ne pas savoir tout de suite. Adélaïde redoute de céder à la panique si la réponse s'étale tristesse et solitude. Elle veut se fabriquer ce soir un beau souvenir, sa première nuit toute seule, sa seconde partie de vie, son nouveau commencement. Adélaïde se lève et met de la musique. Elle s'est faite une playlist qu'elle a nommée New Life, comme le morceau de Depeche Mode qui y figure en premier. Adélaïde est très sensible à la bande son qui accompagne sa vie. Elle choisit une chanson capable d'incarner ce moment particulier, une chanson sur laquelle va s'inscrire ce beau souvenir. Le premier jour, d'Étienne Dao. Adélaïde se cale sur une chaise, son regard photographie le décor. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Ses yeux se heurtent au mur de livres et à l'absence de canapé. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie, c'est providentiel. Adélaïde chante comme on prie, et l'espoir repousse les cloisons du minuscule de pièces. Les guirlandes et lampions scintillent, halos multicolores le long des étagères. La pénombre gomme ce qui encombre. Par la fenêtre ouverte, la lune vient et sourit. Les muscles d'Adélaïde peu à peu se détendent. Les deux plus grandes causes de stress sont les séparations et les déménagements. Les épreuves achevées, il lui semble que son corps a été roué de coups. Il lui reste une semaine avant de retourner au travail. Elle se dit, je serai prête. Et songe à un bain chaud. Elle aimerait un rituel de purification, baignoire remplie de mousse aérienne et nacrée. Elle convoque les images de toutes les salles de bain qu'elle a eues dans sa vie. Qualité du carrelage, température, pression de l'eau. Combien d'appartements pour combien de compagnons? Ici, c'est une douche d'angle. Elle se glisse dans un triangle aux parois plastifiées. Dans sa tête, ça défile. 8 hommes et un mari. Double vasque, moulure. Combien de fois du parquet? L'eau coule et elle se cogne, et soudain réalise qu'elle n'a pas de savon. C'est ce dernier détail qui vient de la faire craquer. Adélaïde s'effondre dans le cercueil de plastique. Si elle ne prend pas soin d'elle, personne d'autre ne le fera. Les premières lignes de Le cœur synthétique annoncent la couleur. Adélaïde est une amoureuse de l'amour. Elle sort tout juste d'une relation de 7 ans avec Elias qu'elle a quitté dans un divorce douloureux, provoqué par la routine qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle se retrouve ainsi dans une situation qu'elle ne connaît pas, ni ne maîtrise. Depuis ses 15 ans et jusqu'à ses actuels 46 ans, elle n'a jamais été célibataire. Elle a, je cite, quitté un homme pour d'autres bras, à chaque rupture. Il suffit ainsi d'un paragraphe pour comprendre un des enjeux du livre, d'une manière efficace et directe, l'affrontement entre le célibat et Adélaïde, la mise en rapport d'une femme et d'une vie dont elle ignore tout. Deuxième paragraphe, mention de ces 7 bibliothèques Billy, de la fameuse marque IKEA. C'est là que mon attention a été attirée et que j'ai rapidement tendu le bras pour attraper un bout de papier et griffonner une note dessus. Car si je n'ai pas 7 bibliothèques Billy, j'en ai 5. Et c'est déjà un point commun notable, même si la marque suédoise a vendu en plus de 35 ans à peu près 41 millions d'exemplaires de cet indémodable meuble. Je me sens toutefois étrangement proche de l'héroïne, Adélaïde, car j'ai moi-même été en couple quasiment non-stop depuis mes 15 ans. Je n'en ai pas 46, mais les parallèles s'accumulent. Heureusement, on apprend qu'elle est passionnée de chaussures. Fière propriétaire de seulement 3 paires que je peux encore porter, cette différence me rassure étrangement, comme si j'avais eu peur d'être trop proche de ce personnage qui souffre déjà. C'est là une force de l'écriture de Chloé Delhomme. Elle permet au lecteur de s'identifier rapidement à son personnage. Bien sûr, elle utilise des attributs courants et une situation, la rupture, que ses lecteurs auront de grandes chances d'avoir vécu, d'autant plus s'ils décident d'acheter un roman intitulé Le cœur synthétique. Mais il y a aussi cette narration à la troisième personne omnisciente, qui écrit et décrit les pensées, les souvenirs d'Adélaïde. Un personnage qui agit, c'est un personnage crédible. Mais un personnage qui ressent, qui se souvient, qui souffre, c'est un personnage vivant, plus que crédible. Du coup, puisqu'on pourrait jurer que quelqu'un, quelque part, a servi de modèle sur lequel Adélaïde a été recopiée. Deux paragraphes seulement ont suffi, je suis accroché au roman. Très vite, on obtient plus de détails sur Adélaïde et ses démons. Déjà souffre-t-elle, en cette première soirée dans son nouvel appartement, de la peur d'être seule. Ou plutôt, comme elle le dit si bien elle-même, se retrouver seule avec elle-même ne constitue pas le problème. Le problème, c'est l'absence d'amour. Alors, elle saute sur la solution la plus simple et se ment le plus possible. Elle imagine un tas de scénarios dans lesquels elle ne vit pas des dizaines d'années dans ce minuscule de pièces, mais chacun d'entre eux implique un homme, un petit ami, voire un mari, ayant les moyens de s'offrir plus, de s'offrir mieux, et donc de le lui offrir. C'est la base de sa réflexion. Elle amorce ce dont elle va se rendre compte. Cette dépendance d'un homme dans sa vie est problématique. Ne va-t-elle pas à l'encontre d'un féminisme qu'elle défend? Se pose ensuite la deuxième intrigue, si je puis dire, du roman, son poste d'attaché de presse dans le monde de l'édition. S'amorce ainsi une certaine mise en abîme, une description d'un monde que, forcément, l'auteur connaît bien et fréquente. Une vision de l'intérieur, peu flatteuse et parfois incroyablement péchue et critique. La course au prix, les décisions de la rentrée littéraire, la course aux auteurs, enfin surtout à leurs livres, et les négociations entre la maison d'édition et leurs égos surdimensionnés. Tout y passe, sur fond de solitude et de désespoir amoureux. Ou peut-être est-ce l'inverse? Le monde de la littérature et la trame d'arrière-plan de l'histoire d'une rupture? Impossible de se prononcer définitivement, ce qui rend le roman d'autant plus ambivalent et intéressant. Adélaïde découvre donc, à presque 50 ans, son aura de jeune femme séductrice l'a quittée, comme elle a quitté son mari, Elias. Les deux ne sont pas liés, mais pendant les années passées avec lui, plus par confort à la fin que par envie, elle a vieilli. Drame humain à son paroxysme, malédiction que certains repoussent mais à laquelle personne n'échappe. Elle et ses quatre amies, toutes dans la fin de leur quarantaine, subissent le même sort, le trouvent tout aussi injuste, en couple ou célibataire. Ainsi, face à l'âge et le jugement des hommes, ou plutôt l'absence de considération de ces derniers, Adélaïde découvre ses failles. Elle est sensible au syndrome d'abandon, elle est dépendante émotionnelle. Elle a besoin d'aimer pour vivre. Le cœur synthétique, c'est le combat d'une femme pour mêler féminisme et besoin d'un homme. Deux désirs qu'elle pense fondamentalement opposés. C'est aussi le quotidien d'une attachée de presse influente, travailleuse et débrouillarde face au grand bazar quotidien des maisons d'édition, des auteurs, des agents. Le cœur synthétique, c'est aussi beaucoup de son auteur, Chloé Delhomme, qui donne son âge à l'une, son métier à l'autre, peut-être même ses peurs et ses espoirs plus souvent que la presse et le lecteur ne le devinent. Artiste pluridisciplinaire, Chloé Delhomme a également créé un album, intitulé Les fabuleuses mésaventures d'une héroïne contemporaine, destiné à refléter les pensées et états d'âme d'Adélaïde. L'expérience de lire Le cœur synthétique en devient encore plus unique, spéciale, intéressante. En peine de cœur ou dans un couple heureux, femme confrontée aux problèmes sexistes ou homme qui veut apprendre et comprendre, dans la fleur naissante de la jeunesse ou les pétales fanés de l'âge qui trace les rides, Le cœur synthétique est fait pour tous et toutes. Et je vous le conseille donc avidement, sans pause ni ennui, comme son contenu. Avant d'écrire Le cœur synthétique, Chloé Delhomme a vécu de nombreuses vies d'artiste. Musique, théâtre, peinture sont des exemples de sa variété créatrice. Elle a aussi beaucoup écrit et beaucoup essayé, avec des romans essayistes. L'essai qu'elle a publié avant Le cœur synthétique s'intitule Mes bien chères sœurs et est une revendication féministe, dont voici le résumé de quatrième de couverture. Ceci est une adresse. Aux femmes en général, autant qu'à leurs alliés. Je vous écris d'où je peux. Le privé est politique, l'intime littérature. En France, la quatrième vague féministe a fait son entrée. Non plus des militantes, mais des femmes ordinaires, qui remettent en cause les us et coutumes du pays de la gaudriole, où une femme sur 10 est violée au cours de sa vie, et où tous les 3 jours, une femme est assassinée par son conjoint. Dans ce court texte incisif qui prône la sororité comme outil de puissance virale, Chloé Delhomme aborde la question du renouvellement du féminisme, de l'extinction en cours du patriarcat, de ce qu'il se passe et peut se passer depuis le mouvement MeToo. Fin de citation. Mes bien chères sœurs, donc, est un manifeste féministe qui s'attelle à la lourde tâche de décrire l'effondrement des normes et de notre société patriarcale en faveur d'une égalité des sexes que l'auteur attend avec impatience. Elle en appelle à la solidarité féminine, une entente du même sexe qu'elle sait compliquée à mettre en place, mais dont elle croit en la force et la puissance. Et dans le même temps, elle s'invente des futurs dans lesquels la société est égalitaire, avec autant de force que de poésie. Quant à la forme de cet essai, il m'a un peu surpris au début. Les phrases sont courtes, s'enchaînent rapidement dans un flot de métaphores dans lequel on peut vite se perdre. Trois mots suffisent pour obliger le lecteur à faire une pause, analyser, comprendre l'idée qui se cache derrière, la référence cachée qu'elle y a déguisée. Ainsi, même si l'ouvrage est relativement court, avec ses 80 pages à peine dans mon format, le lire est une tâche non pas ardue mais intense, qui nécessite que l'on prenne son temps, page par page. Si vous êtes intéressé par la cause féministe, que vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez connaître l'avis d'une intéressée, alors tentez cet essai post-MeToo, qui a l'avantage d'être intéressant également par son style. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Lecture Nocturne en ma compagnie. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite dans un quatrième épisode et toujours plus de voyages oniriques dans le monde incroyable des livres. Bonne nuit et bonne lecture.